Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Aujourd'hui, on va parler de Bref, qui a fait son grand retour vendredi sur Disney+. Alice David sera avec nous dans une poignée de secondes. Nos coups de cœur télé consacrent Baudins qui fêtent leurs 30 ans sur scène aux Folies Bergères ce soir sur M6. Les Baudins seront avec nous. On va parler de Frotter aussi avec Carole Rocher, Eya Hidara et Émilie Caen. La mini-série débarque mercredi sur France 2. On va parler également de Mémoire Vive qui débarque demain soir sur M6. Elisa RK sera en ligne avec nous. Et puis enfin, notre grand coup de cœur ciné cette semaine consacré au film Avec ou sans enfants qui sortira mercredi dans les salles. Elsa Bleyot, la réalisatrice, sera avec nous entourée de Cyrus Chahidi, Adèle Gallois, Joséphine Dray et Julien Pestel. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur, plateforme de la semaine.
Allez, coup de cœur plateforme consacrée à Bref qui vient de sortir sur Disney+. Mais quelle surprise ça a été pour tous les fans de cette série quand le 31 janvier Disney+ a annoncé et dégainé cette bande-annonce de Bref 2.0. Le retour avec Anne Cogendy et Alice David qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Alice.
Salut, bonjour.
Mais quel bonheur. Franchement, c'est une série culte.
Ah bah oui, quel bonheur. Et quel bonheur nous on a eu à recevoir les scénarios. On était trop contents. Kian et Navo ont bien gardé le secret pendant des années qu'ils travaillaient là-dessus. Et au moment où c'était prêt, il m'a passé un petit coup de fil quelques semaines avant de m'envoyer les scénarios en me disant voilà, Sarah is back. Et il m'a raconté toute la trame du personnage et j'ai trouvé ça génial et il m'a envoyé les scénarios et j'ai pas pu décrocher une minute de la lecture quoi. Des 6 épisodes, je les ai bouffés d'une traite. Je me souviens que j'étais dans un aéroport, j'allais prendre un avion, j'ai pas pu m'arrêter, je pleurais dans l'avion. Enfin, c'était génial, quoi.
Comment t'expliques ça, justement, que cette série soit devenue culte et qu'aujourd'hui, ça soit quelque chose qui fasse un événement, le fait d'un retour inattendu et presque inespéré?
En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que pour Bref, quand c'est sorti en août 2011, le jour de l'anniversaire de Kian d'ailleurs, je pense que les garçons, ils avaient capté un truc. Ils ont inventé une narration, ils ont inventé un format. Et je pense qu'ils ont compris quelque chose de leur époque avant que ça arrive.
Des précurseurs.
Ouais, complètement. Tu vois, à l'époque, quand c'est sorti, tout le monde me disait oh, « Putain, mais qu'est-ce qu'ils parlent vite, machin ?» Aujourd'hui, c'est banal et on met les vidéos YouTube en 1.5, quoi, pour regarder plus vite. Et on a vraiment l'habitude de ce ton-là. Donc je pense qu'ils ont inventé quelque chose et ils ont vraiment parlé... de leur génération. En fait, ça a rencontré l'époque. Je pense que c'est ça un succès. Je pense que c'est quand une œuvre rencontre une époque. Et ça, on maîtrise pas, quoi.
pas hésité une seconde pour reprendre Sarah, t'as pas hésité?
Ah bah pas une seule seconde. Et puis vraiment d'arriver sur le plateau avec Kian, Navo, tous les potes, des petits nouveaux. Faut savoir que ils ont gardé, je pense, 80% de leur équipe, même plus, si ce n'est plus, leur équipe technique, le chef opérateur, la script, le chef électro, enfin tous ces gens-là, le costume, étaient les mêmes personnes qui ont démarré avec nous il y a 13 ans, 14 ans. Et donc c'était une joie de remettre les souliers de nos personnages c'était comme de rentrer à la maison quoi.
Il semblerait que Sarah soit devenue populaire dans cette nouvelle version.
Ouais, alors je voudrais pas trop spoiler pour les gens qui ont pas encore vu parce que voilà, faut pas gâcher le plaisir. Mais c'est vrai qu'on voit un petit truc dans la bande-annonce. En tout cas, elle s'est réappropriée son histoire.
Alors, les personnages, pour le coup, ont quasiment pas pris une ride, et pourtant, on les retrouve, ils ont 40 ans, et aujourd'hui, ils ont toujours autant, un peu de galère, mais cela dit, il y a beaucoup de choses qui changent, puisqu'il y a déjà un changement de format, qui va apporter un autre rythme, quelque chose de différent, quand même.
Ouais, complètement. En fait, ce qui est génial, ça se sentait déjà à la lecture, mais c'est qu'ils ont gardé exactement le même ton, le même ADN de Bref, d'il y a 13 ans. Ils ont upgradé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre profondément dans les histoires, dans l'histoire du personnage de jeu, qui s'appelle toujours Jeu, d'ailleurs. Il n'y a toujours pas de prénom. Les retours qu'on a sont que c'est souvent très émouvant, c'est pas que drôle. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de poésie à la lecture et encore plus au montage, quoi, au résultat. Du coup, je trouve que ce format, il permet ça. On le sentait déjà quand on se bouffait les 82 épisodes de Bref à l'époque. On avait ce truc-là parce que ça marchait un peu comme un long métrage. C'était construit comme un long métrage. On se rendait compte qu'il y avait déjà plein de trames et tout. Là, c'est vraiment... là, on plonge dedans.
Ça qui est génial. Disney+, pour le coup, a signé donc une première saison de 6 fois 30 minutes. Est-ce qu'on peut espérer, ou en tout cas, est-ce que vous auriez envie que ça s'arrête pas là?
Ah bah moi, j'adorerais. J'adorerais, mais je pense que Kian et Navo, ils reviendront avec une saison 2 s'ils ont les bonnes histoires dans leur carnet et les bonnes choses à raconter avec la sincérité, avec la justesse, quoi. C'est ce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'ils ont attendu autant de temps, c'est qu'ils ont noté plein de choses dans des petits carnets en se disant ça c'est une bonne idée, ça c'est cool, ça c'est machin, ok, qu'est-ce qu'on en fait. Et une fois qu'ils avaient tout, qu'ils avaient leur trame, ils se sont dit en fait c'est une série et ce sera la suite, quoi. Donc voilà, moi je leur fais confiance pour en tout cas continuer l'aventure comme ils en ont envie.
Même 10 ans après, vous avez très vite repris vos habitudes, vous connaissez presque par cœur, mais malgré tout en 10 ans c'est comme si vous étiez jamais quitté.
Ouais, c'est clair. Et puis surtout c'est la même équipe. C'est les deux mêmes réalisateurs. Évidemment, on a tous pris de l'expérience, on a tous fait d'autres tournages, etc. Et c'était exactement le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait très peu de prises, comme sur la saison 1. Donc on arrivait, on se disait, ok, bon bah une prise. Attends, tu me redis ça comme ça? Ok, tac, tac, coupé. Bon bah c'est bon, je l'ai.
C'est génial pour une comédienne, je trouve, comme toi, d'avoir participé à des projets novateurs, comme peut l'être Bref. Ou comme peut l'être Babysitting par sa façon aussi de filmer, qui a amené une véritable révolution au cinéma, la bande à Fifi, mine de rien.
Ouais, bah c'est une chance, hein. Franchement, c'est une chance d'avoir pu intégrer des projets comme ceux-là, de s'éclater autant en tournage, d'avoir aussi une part belle comme ça, quoi. Je veux dire, puis sur Babysitting, c'était génial. Le mode de tournage, au-delà de ça, c'était quasiment que des plans séquences. Donc on avait un truc aussi jubilatoire dans le jeu, où la technique se calait avec nous. On s'écoutait beaucoup, on répétait un tout petit peu, on trouvait des trucs en répète, on se disait « Ah, ça c'est bien, on le garde !» Puis on se rendait compte que ça marchait trop bien, enfin, c'était du plaisir, quoi. Ouais, j'ai de la chance là-dessus, vraiment.
C'est cool, ouais. Et le prochain gros projet, avec Hakim Djemili, Cécilia Rouault, à qui l'on doit Les Complices, justement, avec justement Laura Felpin, que tu retrouves dans Bref, va sortir le 3 septembre prochain. Et sous la houlette donc de Cécilia Rouault, c'est Adieu Jean-Pat. Et c'est un film qui a été tourné en plus dans la région, du côté de Royan.
Ouais, on a tourné ça printemps-été l'année dernière. Et ouais, il y a une pléiade de comédiens. C'est un scénario qui est écrit par Laurent Tirard et Fab Caro et réalisé par Cécilia Rouault. Et c'est, je l'ai vu là il y a quelques jours et c'est super. C'est extrêmement attachant. L'histoire d'un jeune homme qui reprend un petit peu le lead sur, je sais pas comment le pitcher encore. C'est encore très frais, mais ça parle beaucoup de l'adolescence, ça parle beaucoup de l'enfance.
Souvenirs.
Ouais, des souvenirs et surtout de comment on se réapproprie son histoire. Voilà.
Ça va être chouette.
Ouais, franchement, c'est hilarant. Il y a une pléiade d'acteurs géniaux. Il y a Hakim, il y a Fanny Sidney, Constance Labbé, Meriem Serba, Nora Hamzaoui, Valérie Carcenti, Thibaut de Montalembert, Gustave Kervern, que j'adore. C'était vraiment génial, quoi.
Bon, tu reviendras nous en parler, j'espère, à la rentrée.
Avec grand plaisir.
On va se connecter là-dessus, en tout cas, pour Adieu Jean-Pat. Et en attendant, on te retrouve dans Bref, évidemment, sur Disney+. 6 fois 30 minutes à déguster absolument sans aucune modération. C'est bien dit.
Ouais, let's go. J'ai rien à ajouter.
Merci Alice, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis, on se dit à très, très vite pour de nouvelles aventures. Et une pensée pour Laurent Tirard, évidemment, pour Adieu Jean-Pat, qui l'a coécrit, donc, du coup, et qu'on retrouvera à la rentrée aussi au cinéma. Merci beaucoup, Alice.
Merci beaucoup.
Bah, t'es là?
Ouais. Bref, ça y est, j'ai 40 ans.
Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète, hein.
Pourquoi j'ai quoi ?
40 ans.
Petite merde. Quoi ? Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu. Avec mes potes, tout va pas se passer comme prévu.
Je vais faire quoi ?
Putain, mais lâche-moi !
Et avec ma famille, tout va pas se passer comme prévu.
On va se battre !
J'ai une nouvelle coloc que j'ai du mal à cerner.
Il est à toi le fromage dans le frigo ?
Ouais, c'est un fromage de chèvre.
T'as de la merde, ton fromage de merde !
Autour de moi, tout le monde a évolué. Enfin, presque tout le monde.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. La télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Salut, c'est Michel Simès. Moi, eh ben, écoutez, chaque semaine, j'écoute Alain Jeanne dans Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré à M6 qui va fêter ce soir les 30 ans des Baudins. Et ils sont avec nous justement Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet, nos deux auteurs, ceux qui donnent vie à ces personnages hauts en couleur et qu'on aime tant. Bonsoir à tous les deux les garçons.
Bonsoir Alain, bonsoir.
Merci d'être là tous les deux pour fêter les 30 ans. 30 ans, on imagine, mais c'est une aventure absolument hors du commun. Et quand on se remémore cet album Souvenir, évidemment, et de ces 30 ans en arrière, quand on démarre dans une petite ferme comme ça de la Touraine, et qu'on se retrouve à remplir des zéniths, on se dit, mais quel parcours. Jean-Christian.
Bah oui, mais justement, tout ça s'est fait sur 30 ans. Donc nous, on a eu le temps de savourer chaque étape, et puis ça s'est fait progressivement, et tout ça s'est fait grâce au public, hein, parce qu'on a fédéré un public depuis 30 ans. On voit d'ailleurs des gens qui nous ont suivis depuis le début. L'autre jour, à la sortie d'un spectacle, il y avait une jeune femme d'une trentaine d'années qui nous dit « Je vous suis depuis que j'ai 5 ans ». Donc ça faisait 25 ans qu'elle nous suivait. Donc voilà, on doit beaucoup au public en tout cas.
C'est terrible, hein. C'est terrible parce que mine de rien, c'est là qu'on s'aperçoit que nos personnages, eux, n'ont pas pris une ride, mais nous, on en a pris beaucoup. Moi, par exemple, ça fait donc 30 ans que je joue la grand-mère dans Les Bodins. Eh ben, je vous le donne en mille, je viens d'être grand-père, pour de vrai. Et ça, je l'ai pas vu arriver, quoi. Nous, on n'a pas vu le temps passer. Mais on fait un métier formidable, on se le dit tous les jours avec Jean-Christian, il y a beaucoup de gens qui voudraient notre place. On essaie de continuer à être digne de tout ce qui nous arrive.
Ce qui est encore plus admirable, c'est que ce succès, il a été monté au fur et à mesure, petit à petit, sans beaucoup de médiatisation malgré tout autour. On a eu l'occasion d'aller voir votre spectacle à la ferme où nous avions invité l'été dernier. C'était fou, c'est plein, il y a 800 à 1000 personnes qui sont là, on vit un truc en extérieur tous ensemble. C'est extraordinaire ce que vous avez fait là.
Bah, le spectacle d'été à la ferme à Descartes, en fait, cette année, on fête les 30 ans du duo et les 20 ans du spectacle d'été.
On va être obligé de revenir.
Ah, mais vous êtes les bienvenus. Et donc, là-bas, c'est très fatigant, hein, parce que ça dure un mois, c'est intensif, hein. On joue 22 fois devant 1000 personnes à chaque fois dans la cour de cette ferme au milieu des champs. Et c'est un événement estival maintenant important. C'est plein d'une année sur l'autre et on passe là-bas des moments formidables. C'est notre récréation estivale.
Une ambiance champêtre vraiment super agréable. Alors, les garçons, cette soirée, ce soir, va commencer tout simplement avec une Maria Bodin qui a envie, en tout cas, de fêter ses 30 ans dignement, en grande pompe. Pour la première fois, elle nous a fait verser une petite larmichette, elle va vous faire verser en tout cas une petite larmichette. J'en suis sûr, c'est la première fois qu'elle évoque ses funérailles en se disant « je veux pas partir avant d'avoir fait un truc en grande pompe comme ça ». Et puis son fils va essayer de cogiter, va appeler les Folies Bergères. Évidemment, Patrick Fiori fait un plein incroyable jusqu'au moment où Patrick va disparaître et les Bodins vont devoir reprendre l'affiche et monter un show à l'américaine en à peu près deux, trois jours. Est-ce que j'ai bien résumé l'histoire ?
C'est exactement ça. Une petite exception, c'est qu'il faut se méfier de Maria Bodin. En fait, quand elle commence à parler de sa mort à son fils, c'est souvent pour essayer. Ouais, voilà, c'est ça.
Et à nous aussi, public, du coup, elle essaie de nous attendrir. Hein.
Et voilà, et le fils Bodin, il se fait avoir parce que c'est un bon petit gars en fin de compte, voilà. Mais oui, c'est l'occasion de faire une fiesta, puis surtout de réunir autour de nous, autour des personnages, des Bodins, plein d'amis du métier, voilà, des chanteurs, des comédiens et on s'est régalé à tourner ça et puis les gens sont là pour les bonnes raisons et donc on s'est bien amusé.
Il va être toujours aussi maladroit le fils Bodin, c'est ça qu'on aime.
Oui, c'est vrai qu'il a été touché par la ce que sa mère lui a dit. Il va se décarcasser vraiment pour lui faire plaisir, à savoir qu'elle vienne fouler la scène des Folies Bergères parce que c'était son rêve. Elle avait vu Zizi Jeanmaire il y a bon nombre d'années avec son mari, donc elle dit si je pouvais en faire autant. Donc voilà, ça va ruminer dans sa tête toute la nuit, puis il va essayer de se décarcasser. Alors, cette émission de télé, ce prime time, c'est assez insolite parce qu'il y a à la fois une partie qui se passe sur la scène des Folies Bergères avec plein d'invités, mais on a tourné aussi plein de fictions qui viennent agrémenter ce programme. Et c'est assez original pour le signaler.
Il y a des super guests, Antonia Dredinger qui ouvre un petit peu le bal justement des guests aussi. On va découvrir Michael Grigoriou en policier improbable, une espèce de Laurel et Hardy avec son comparse. Enfin bref, on va passer une soirée de rire et ça va faire tellement du bien, on en a besoin en ce moment.
Ouais, non, c'est vrai que c'est notre troisième prime sur M6. Alors on a des personnages outre les Bodins qui sont un peu récurrents quelquefois, comme le maire du village joué par Fred Bourali, Michael Grégorio qui avait déjà interprété un flic, voilà. Et puis tout le temps on essaie d'intégrer d'autres amis parce que la plupart des gens qui sont dans notre programme sont des amis qu'on connaît bien. Et voilà, et à chaque fois on a des nouvelles têtes. Maria va rencontrer, son rêve c'était de rencontrer Hugo Frey. elle va rencontrer Hugo Frey qui va lui chanter une, elle va chanter Santillano avec Hugo Frey. Je sais pas si, si vous imaginez. Voilà, puis plein de potes, Gauvin Serre, etc. Enfin, voilà, plein d'humoristes. Et franchement, on a, c'est un super programme.
Les Baudins, c'est l'occasion évidemment que Maria ou Christian vivent des choses improbables, mais vous avec, du coup. Par la même occasion, je suis sûr que vous êtes épaté par les grandes choses que vous vivez et par les artistes qui vous suivent, qui sont là, qui sont avec vous. Votre cercle d'amis s'agrandit. Moi, j'ai l'impression d'année en année.
Oui, alors nous, avec Jean-Christian, en 30 ans, on est arrivé là où on est, les zéniths, les cinémas, tout ça, mais on s'est jamais pris pour des stars. On se prend plutôt pour des aides-soignants, puisque à la fin des spectacles et des films, les gens nous disent toujours n'arrêtez pas, ça nous fait du bien, vous êtes des vrais médicaments, le rire, etc. Et malgré ça, on apprend souvent par des gens très pudiques que ces gens-là très connus sont fans des Baudins, et nous ça nous touche toujours beaucoup. Les amis du métier, les vrais autour de nous, ça nous touche beaucoup parce que c'est une reconnaissance aussi quand on sait qu'on fait rire par exemple Hugo Frey qui a 95 ans et qui aime bien les Baudins, ça nous fait évidemment plaisir. On est adoubé par ces gens-là, ça nous fait plaisir, ça nous touche.
Une soirée pleine de rire et d'émotion en tout cas qui vous attend ce soir, c'est les 30 ans des Baudins, c'est à 21h10 sur M6. Il y aura ensuite une deuxième partie avec les Baudins fêtent leurs 30 ans, ça continue, présenté par Élodie Gossuin. Il y aura en tout cas une très très belle soirée à vivre avec vous et nous, dès 21h10, on sera au rendez-vous en tout cas. Et on va vous donner un rendez-vous exceptionnel parce que les 30 ans des Baudins, ça va pas s'arrêter là. Dans un mois, vous revenez dans Chute, on écoute la télé, parce que là, on peut vous promettre qu'une chose, c'est que les Baudins partent en vrille.
Ah oui, ça c'est clair. Ben oui, le 19 mars prochain, on sort notre nouveau film au cinéma. Alors on vient de faire une tournée d'avant-première incroyable. Une centaine de cinémas, que des salles pleines, des séances qui se rajoutent, un public enthousiaste. Vraiment, ça nous fait plaisir et c'est très bon augure pour la sortie du film. Les gens rient comme c'est pas permis au film. Il y a aussi beaucoup de fond dans ce film. C'est un film, sûrement le film depuis le début qui nous ressemble le plus. On est heureux de savoir que le public a aussi capté ce petit message de fond du film qui traite un peu de la désertification des campagnes. Donc voilà, 19 mars, on sera
au cinéma. Et vous serez de retour dans Chute, on écoute la télé dans un mois tout pile avec un petit cadeau. Vous ramènerez Mylène Farmer. Je ne dis que ça.
C'est ça. Faut dire que ça parce que là. Pourquoi pas Céline Dion pendant qu'on y est.
Merci à tous les deux. En tout cas, les Baudins fêtent leurs 30 ans. C'est ce soir, 21h10, sur M6. On se quitte avec un petit extrait et on se dit à dans un mois, les garçons.
Avec plaisir.
Vache, je me suis fait surprendre. On est où, là?
Vous êtes arrivé à destination.
Merci, madame. Ça va pas. Tu veux nous tuer ou quoi, cette espèce d'abruti?
Je me suis trompé de pédale. J'ai voulu freiner, puis j'ai accéléré. Oh. J'ai le pied qui a ripé.
Oh, le balade. Ah oh, bah oui, alors forcément, marchez beaucoup moins bien maintenant.
Déchaîné.
Ah oh, bah oui, je me suis foutu la gueule dans le montant de la porte là.
Et puis il n'y a pas d'airbag
là-dessus. Oui, il n'y a pas d'airbag, mais on a l'air con par contre.
Mais non, mais c'est pas possible. Mais dites-moi pas que c'est pas eux. On fait un selfie?
Ah bah ouais, plaisir, ouais.
Et bah vite fait, Christian, parce qu'on est carrément à la bourre déjà. Hein.
Oui, non mais on va...
Oh là là, mon Dieu, c'est pas vrai, les vrais, les Baudins.
Oui.
J'en ai plein de photos de vous, mais alors ça, en chair et en os.
C'est incroyable. Chérie, mais c'est qui celle-là?
Aidez-moi.
On tombe là-dessus, nous.
Et notre coup de cœur télé est consacré à Mémoire Vive, mini-série qui débarque demain soir sur M6 avec Clémentine Célarier et Elisa Erka qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Elisa.
Bonjour Alain, merci de m'inviter.
Merci d'être avec nous. On était il y a quelques semaines ensemble au Festival de l'Alpe d'Huez avec trois magnifiques prix pour le film Avignon que tu viendras nous présenter avec Johan Dionnet le 16 juin prochain. Ensuite on écoute la télé, mais demain soir débarque Mémoire Vive, une fiction où on va retrouver Esther Lefebvre, incarnée par Clémentine Célarier, qui a passé une partie de sa vie en tant que greffière au service d'un juge d'instruction. Et donc, au moment où cette femme à la retraite va se découvrir un Alzheimer précoce, elle va décider de rentrer en mode vengeance. Mais ce qu'elle ne va pas comprendre, c'est qu'une jeune fille talentueuse et fonceuse que tu incarnes, Célia Le Goff, elle va voir son quotidien basculer en même temps, puisqu'elle va trouver des messages sur des meurtres dont elle va pas comprendre tout de suite ce qui se passe. Est-ce que les deux personnes sont liées? Comment est-ce que ces deux destins vont se rejoindre? C'est ce qu'on va découvrir, en tout cas, une série qui met sous tension et qui est plutôt sympathique, en tout cas, à découvrir. Est-ce que toi, au scénario, c'était la même chose?
Moi, j'ai eu un véritable coup de cœur tout de suite à la lecture du scénario parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de décalage et d'humour. C'était assez inattendu pour une série policière parce que c'en est une sans en être une. En fait, c'est une arène. Hein. Le côté flic et enquête, c'est presque un prétexte pour raconter ces deux drames qu'elles vivent toutes les deux. Et c'est presque, ça se transforme en thriller, très décalé, très pop rock parce que vous allez voir, c'est une série qui est très colorée, très dans l'humour aussi. Le personnage de Clémentine Célarier, Esther, amène énormément de décalage, d'humour, de maladresse, est très touchante, très empathique. Et mon personnage, Célia Le Goff, qui est capitaine dans une brigade de flics, va mener une enquête. J'adore ce personnage parce que à chaque fois qu'elle va découvrir un cadavre, elle va découvrir quelque chose qui lui est relié à son enfant. C'est la trajectoire de ces deux mémoires croisée. Il y a celle qui découvre qu'elle est Alzheimer et qui commence à perdre la mémoire et qui se dit « Ok, j'ai un projet à réaliser qui est très important parce que, ça je ne spoile pas, j'ai été lâche, je fonce dans ce projet ». Et par ailleurs, mon personnage, elle, se rend compte qu'elle recouvre des bouts de mémoire, des choses qu'elle avait enfouies, une sorte de déni traumatique. Et ces deux mémoires trouées vont se rencontrer, se compléter, se servir l'une l'autre.
Oui, parce que Célia va recèle plein de douleurs passées qu'on va découvrir au fur et à mesure de la série. Mais au premier abord, quand même, Célia, c'est une flic, je dirais pas forcément baba cool, mais c'est une capitaine un peu borderline, quoi, hein, qui est vraiment plutôt cool, qui arrive en retard. Enfin, elle se prend pas la tête, quoi. C'est ça qui est bien.
Alors, on peut le lire comme ça et on peut aussi le lire comme quelqu'un qui essaie. Moi, elle me touche beaucoup. C'est un personnage qui me touche énormément, que j'ai adoré jouer parce que elle surcompense tout pour combler quelque chose qu'elle ne comprend pas chez elle, quoi. Il y a vraiment un vide à combler, quelque chose, un mystère. Là, elle se noie dans la fête, elle consomme les hommes, elle consomme les sorties, elle dort pas beaucoup, elle adore son travail, elle est presque obsessionnelle dans son travail. Enfin, il y a quelque chose qui est une roqueuse presque, quoi. Elle est impressionnante parce qu'elle est, elle est vive, quoi.
Oui, et c'est ce qu'on va découvrir, ce qu'elle cache tout au fur et à mesure de ces 4 épisodes. En tout cas, c'est hyper addictif, hein. On a du mal, justement, à décrocher, ne pas se faire les 4 d'un coup. Et ça tombe bien, parce que M6 Plus Premium fait bien les choses. Quand vous aurez vu les 2 premiers épisodes, vous aurez déjà la suite sur M6 Plus Premium. Ça, c'est bien.
Oui. C'est génial.
C'est génial. Est-ce que tu as un souvenir à nous raconter particulier justement sur ce tournage, ta rencontre avec Clémentine aussi?
Ma rencontre avec Clémentine, on a les deux personnages principaux de la série, mais on joue presque jamais ensemble. Enfin, vous allez voir, je suis presque surprise. On a eu un moment en fait où nos histoires se rejoignent et on a eu une scène, mais finalement, on a vécu nos deux parcours un peu isolés.
Ouais, de façon parallèle.
De façon parallèle. Et on communiquait vachement par vocaux, en fait. Vocaux WhatsApp, on se laissait des vocaux et on se disait, moi aujourd'hui, ça m'a saoulé, ça j'ai adoré, ça machin. Et toi, comment t'as vécu ça? Parce qu'on a vraiment des journées à rallonge. On commence très tôt, on finit très tard. Quelquefois, on dort 5 heures et puis il faut se relever. Enfin, c'est une très, très grosse journée. Et on communiquait comme ça. On communiquait pour se donner des nouvelles et dire... et dire ce qu'il en était, quoi.
En tout cas, c'est une série à ne pas manquer. C'est demain soir à 21h10 sur M6. Elisa, on te retrouvera également donc à l'affiche du film Avignon. Ça sera le 18 juin prochain, un film qui a été primé 3 fois au dernier festival de Alpes d'Huez. Ça a été le carton complet avec un film où on rigole beaucoup, une comédie romantique comme on les aime et qui nous laisse avec la petite larme à l'œil aussi, tellement il y a d'émotions aussi dans ce film. Où tu joues le personnage principal avec Baptiste Caplain, mais tu viendras nous en parler avec le réalisateur Johan Dionnet le 16 de juin, justement, dans Chut, on écoute la télé. Donc, on t'attend, Elisa?
Avec grand plaisir. Merci de porter autant d'intérêt. Merci.
Et on te dit à bientôt. Et mémoire vive, demain soir sur M6 à 21h10. On se quitte avec la bande-annonce. À très vite.
Merci beaucoup.
Mais Esther, tu travailles plus ici? T'as pris ta retraite il y a plus de 6 mois.
C'est la maladie d'Alzheimer.
Qu'est-ce que je vais faire si j'oublie tout?
Vous n'avez pas en tête un projet que vous reportez depuis des années?
Si. Foutu pour foutu, autant faire quelque chose de bien.
Bonjour, capitaine.
J'ai l'impression que j'ai toutes les pièces devant moi, mais juste, je sais pas assembler le puzzle.
Vous arrivez quand?
Demain.
Ça me laisse tout le temps de faire le ménage comme ça.
Mémoire vive avec Clémentine Célarier, mardi à 21h10 sur M6.
Allez, Frottez, Frottez, c'est la série à ne pas manquer qui vous attend sur France Télévisions et on a la chance d'accueillir eh bien justement toute une partie des comédiennes qui sont avec nous. Émilie Kahn, une habituée de l'émission. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Yéa Hidara qui est avec nous. Bonjour Yéa.
Bonjour.
On a plaisir à retrouver aussi. On s'était vu il y a quelques années dans un film avec Ahmed Silla, si je me souviens bien. Super film d'ailleurs qu'on a adoré. Et puis Carole Rocher qui va nous retrouver dans un instant. On parlait d'un combat de femmes. Et puis le personnage d'Émilie qui va venir justement aider ces femmes aussi. Qu'est-ce qui vous a plu à toutes les deux déjà dans ce scénario Frottez, Frottez? Ayez.
Bah alors moi ce qui m'a plu déjà c'est un peu cette peinture d'un bout de la société, ces gens qu'on voit pas, ces gens sur lesquels on ne met pas de lumière, c'est de les avoir dessinés avec beaucoup de véracité et puis de voir qu'ils étaient un peu tous en quête de quelque chose d'assez noble, c'est-à-dire de dignité et puis de reconnaissance. Voilà ce qui m'a plu parce que je trouve que c'est quelque chose de noble à défendre.
Émilie ?
Oui, je connaissais un tout petit peu le combat de ces femmes. Je me suis renseignée après avoir lu le scénario. C'est toujours intéressant de faire des films qui ont une portée politique. Voilà, j'ai adoré le personnage qui mélange l'intime et le politique. Et en tout cas, quand on travaille, on pense pas à tout ça, mais quand on voit l'œuvre à la fin, on se dit que oui, c'est important.
Alors, ton rôle, Émilie, c'est une avocate qui est souvent commise d'office, qui doit servir pour des méfaits, des fois, qui la mettent au bout du rouleau, on peut le dire, et qui va trouver sa voie en aidant ces jeunes femmes, et notamment Solange, qui est, on va dire, un peu la porte-parole de ces femmes de chambre. Hein. Ils t'ont proclamé, à un moment donné, porte-parole de ces femmes de chambre qui vont se rebeller dans un hôtel pour se faire payer leurs heures supplémentaires. Rien va se passer, évidemment, comme prévu, et du coup, eh bien, elles vont faire grève, et c'est tout ce qu'on pour arriver justement à se faire reconnaître. C'est ça qui est important aussi. On parle un peu justement de ces gens invisibles hein, dans les hôtels, dans les gens qui travaillent pour nous, pour notre confort, pour les touristes. C'est aussi ça que raconte Frottez, Frottez.
C'est des gens sans qui la machine n'avancerait pas. Si elles n'étaient pas là, on n'irait pas dans ces hôtels-là. S'il n'y avait pas ce service de qualité, on n'irait pas dans ces hôtels-là. Et souvent, on a tendance à un peu minimiser leur travail alors qu'elles sont vraiment des piliers de ces industries. Et on a tendance à pas les regarder parce que, effectivement, c'est souvent des travaux qu'on confie à des gens vulnérables et on en profite. C'est malheureusement moche, mais c'est très réel. C'est la société dans laquelle on vit. C'est les sociétés dans laquelles on vit parce qu'on va pas taper sur la France. Le monde marche comme ça. Les plus forts se servent des plus faibles et quand les plus faibles disent stop, on se rend compte que leur stop, en fait, ça crée plein de dégâts. Donc, ce qui est bien, c'est d'en prendre conscience, de se dire, elles ont dit stop, et finalement, on peut pas du tout se passer d'elles, on a besoin d'elles, elles sont une partie intégrante de notre société, et il faut les regarder, il faut les reconnaître.
Et puis, Émilie, non seulement tu vas venir en aide, tu vas être touchée par le combat de ces femmes, mais surtout tu vas leur venir en aide, et à la fois elles aussi vont te venir en aide, en redonnant un peu des lettres de noblesse au travail que tu fais, que tu effectues, ou que tu n'avais plus un grand goût justement à ça. Et ce qui est beau, c'est que justement vos personnages vont s'aider mutuellement finalement.
Oui, ça va me permettre de me redresser, d'arrêter de me regarder le nombril, de regarder autour de moi, de m'engager, de grandir, de gagner des combats. Oui, je vais avancer grâce à ces femmes.
Et au fur et à mesure, évidemment, qu'on ne les entende pas, le combat va devenir de plus en plus violent, va monter aussi au plus haut, sommet du groupe hôtelier aussi. C'est ce qu'on va découvrir, en tout cas, au fur et à mesure du chamboulement des vies de ces femmes, en tout cas, et de ce combat qui va être mené. Est-ce qu'il y a une scène particulière qui va rester en mémoire, que ça soit dans le tournage, l'unité, peut-être que vous avez eu tous ensemble, que ça soit devant ou derrière la caméra pour le coup? Ayez.
Il y a plusieurs moments qui sont assez touchants. Je pense que les scènes de piquet, les scènes de manifestation, je crois que celles-là, effectivement, elles restent, on s'en souvient et on aime parce que c'est des beaux échanges de tournage. Il y a un gros bordel, mais en même temps, c'est très organisé et puis ça donne une espèce de dynamisme à la série qui fait que, enfin, on est content d'avoir touché cette vérité avec ce groupe.
Pour toi, Émilie?
Oui, les scènes de piquet de grève, moi, ce serait pour mon personnage plus les scènes de procès, oui, pour mon personnage qui, au début, échoue et puis finalement va y arriver. Mais je pense que c'est des scènes collectives, de combats collectifs qui sont les plus fortes, ouais.
Il y a dû y avoir une entente sur le tournage parce que, je sais pas, on sent une unité déjà entre vous. On dirait que vous êtes investi d'une mission non seulement en tant que personnage, mais en tant que comédienne peut-être aussi.
Ah bah oui, mais moi quand j'y vais à fond, j'y vais en tant que comédienne, en tant qu'ayée, en tant que tout, mais je vais pas à moitié, sinon après c'est là où on est ridicule quoi.
ça qui est chouette quand on donne tout. Émilie, pareil d'ailleurs.
Oui, mais c'est surtout que chaque, enfin moi, en tout cas, j'aborde tous les personnages de la même façon, avec le même engagement. C'est après, je trouve, que c'est l'œuvre qui fait que c'est que ça a une marque sociétale, politique. Mais ça, on n'y pense pas quand on le fait.
Carole Rocher qui vient de nous rejoindre. Bonjour Carole.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aussi. Alors, on va du coup un peu plus parler aussi de votre personnage, Carole, qui reste un peu en sous-marin dans un premier temps et qui va se révéler au fur et à mesure. On dirait un réveil presque.
Oui, je pense que c'est quelqu'un qui est très seul, qui s'est beaucoup renfermé par sûrement plein de déceptions. Et finalement, par conviction et par empathie, elle va rejoindre le groupe. Et elle se révèle parce que je pense que cette fille est tellement seule. Comme on peut voir, tout le monde a une famille, des enfants. Et elle, sa famille, je pense qu'elle trouve une famille dans ce groupe-là.
Mais on va voir que quand elle se réveille, hein. Elle fait pas semblant quand même.
C'est peut-être pour ça qu'elle n'y est pas allée tout de suite, parce qu'elle a un peu de mal à se gérer.
Elle n'y va pas de main morte, vous allez voir en tout cas. Qu'est-ce qui vous a plu en premier dans ce personnage justement, Carole ?
Bah c'est ça, c'est son côté brut de pomme, sincère, voilà, et je trouve qu'elle est très touchante.
C'est vrai, enfin tout, hein, d'ailleurs tous les profils, vraiment tous les personnages sont hyper touchants, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Puis on apprend des choses aussi malgré tout, un peu quand même sur les droits aussi, hein, que peuvent avoir ces femmes qu'on oublie un peu quand même malgré tout, enfin ces femmes ou ces hommes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des hommes qui font ce métier-là, faut pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'on met un peu en lumière tout ça. Même question Carole, meilleur souvenir peut-être, je sais pas, ça peut être devant, derrière la caméra, un souvenir d'ambiance ou d'une scène particulière qui vous a marqué particulièrement ?
Bah, sincèrement, moi j'ai adoré l'ambiance, du début à la fin. Après, des anecdotes, bah, y a eu la grève des techniciens. Donc j'ai eu des choses, voilà, on a fait des scènes où on était quatre, avec le directeur de prod qui bidouille un truc de son. Enfin, on a l'impression de faire un petit court-métrage d'étudiants. Donc c'était, on a beaucoup ri, voilà.
Eh bien écoutez, en tout cas vous faites plein de belles choses. On va suivre Frotter les deux premiers épisodes cette semaine sur France Télévisions. On continuera à en parler la semaine prochaine avec une autre partie de l'équipe qui viendra passer nous voir en tout cas. Et on va continuer à soutenir cette mini-série qu'on a déjà hâte de vous faire partager sur France 2. Merci à toutes et trois.
Merci à vous, merci beaucoup.
Merci.
On est là. C'est un mouvement de grève. Vous ne pouvez pas empêcher vos salariés d'exprimer leur voix.
Elle travaille près de 10 heures par jour pour même pas le SMIC.
Il y a peut-être quelques-unes qui pourraient travailler à la frontière, non ?
Non, mais non. Tu sais, on est vraiment contentes hein, de te revoir.
Ouais, moi aussi.
Est-ce qu'on peut rester rationnel ?
J'aurais jamais dû accepter de les défendre.
T'as pas quelque chose aussi pour te détendre ? T'as une plaidoirie très très convaincante.
Sans preuve, monsieur le président. Où est le droit ?
Je sais ce que ça représente pour nous, ça. Je vais vous trouver une meilleure avocate. Je suis pas la bonne personne.
C'est bon, j'y vais.
Et pourquoi ?
Puis tu vois, j'ai besoin de prendre l'air.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Y'a ma main dans la fenêtre, Titanic. Y'a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Super sexy, you make me feel nice. Frissons every time. J'y ai pensé mille fois. If you want me, dis-moi. You make me feel good. Et plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away and now I'm back to you. C'est arrivé. You make me feel good. La main sur ma taille, on se met dans le taxi. C'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frissons every time. J'y ai pensé mille fois. If you want me, dis-le-moi.
Trouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Salut, c'est Lola Devers. Moi, chaque semaine, j'écoute Alain Jeanne dans Chute, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre gros coup de cœur ciné cette semaine est consacré avec ou sans enfant qui sort mercredi dans les salles. Elsa Bleyo, la réalisatrice, est avec nous pour démarrer cette spéciale. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a eu la chance de voir ce film en avant-première et maintenant quelques semaines au Festival de Alpes d'Huez. Ça y est, dans deux jours, il va appartenir au public. C'est une grande crise de rigolade qui nous attend et qui à la fois fait réfléchir sur le fait aujourd'hui de cette société qui pourrait reprocher, voilà, aux couples qui n'ont pas d'enfants, par exemple, ou à ceux qui en ont, d'avoir du mal à cohabiter finalement ensemble. Et on va s'apercevoir dans ce film que ceux qui n'en ont pas, selon la formule, ils vont pas le regretter en tout cas, et ceux qui en ont, bon courage. C'est ça que j'ai aimé dans cette présentation en tout cas, Elsa. Où est venue l'idée ?
L'idée est venue à l'arrivée de mes enfants et surtout l'arrivée des enfants des autres. J'ai remarqué que les amitiés, les liens d'amitié étaient un peu bouleversés et que on n'était plus pareil. Donc je trouvais intéressant de parler de comme la parentalité bouleverse le quotidien, enfin dans l'amitié quoi, particulièrement. On voit plus ses amis de la même façon. À un moment donné, d'un coup, on est invité au goûter d'anniversaire, on comprend plus quoi. On se voit plus au dîner, on est au goûter et puis les rendez-vous sont calés en fonction des horaires de sieste des enfants. Et on le fait ou pas, mais voilà, c'est chacun a ses habitudes et du coup nos amis changent et nous aussi.
Il y a un casting de folie. On va y suivre un groupe de 5 couples, dont 4 ont des enfants. Le 5e, lui, décide de se marier en Italie, dans le pays d'origine de l'un des deux. Mais voilà, quand ils annoncent ça à leurs amis, ils leur disent carrément, non, on vous invite, mais sans vos enfants. Et c'est là que tout va se compliquer, évidemment, puisque les autres couples qui ont des enfants, deux vont tomber malades juste avant de partir, et donc ils vont décider de les emmener, les autres vont dire, attends, pourquoi nous on les emmènerait pas? Et ils vont décider de les cacher et de se relayer, mais rien ne va se passer comme prévu, autrement ça serait pas drôle.
Oui, c'était aussi pour montrer ce que crée l'enfant, c'est-à-dire ça devient aussi une contrainte, évidemment que c'est merveilleux quand on a nos enfants, on les aime, mais ça nous bouleverse complètement nos habitudes, et donc quand on veut concilier la vie, la fête avec les amis et bien s'occuper des enfants, souvent c'est un peu le fiasco. Donc là finalement ils décident de les emmener, les cacher, mais on n'est pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais du coup ça crée des gags et des situations amusantes.
Alors, j'ai rajouté un couple, en fait il y en a 4. Hein. Alors il y a celui qui est incarné par Nadia Rose, notamment qu'on a accueilli il y a quelques semaines, qui nous parlait de ton film Elsa avec beaucoup d'amour en tout cas, qui est un peu ce couple où que c'est plutôt l'homme qui s'occupe de l'enfant. On a le jeune couple incarné par Tiffany Davis et Ryan Bensetti, là qui est un peu le couple au bord de la crise de nerfs depuis qu'elle a mis au monde son premier.
Oui, c'est ça. En fait, on a voulu vraiment écrire des couples différents. Donc, il y a on pourrait dire le classique qu'on a vu plus représenté. C'est le couple un peu qui s'est un peu perdu avec l'enfant, quoi, qui ne parle plus que d'organisation, de couches. Voilà, il y a plus de
charge mentale.
Voilà, la charge mentale. Il y a plus tellement d'amour entre eux, donc ils font que se s'engueuler. Il y a le couple de Joséphine Drey et Julien Pestel.
On va recevoir dans un instant.
Qui est le couple amoureux, complètement épuisé, lessivé de fatigue, mais très soudé. Et qui eux arrivent à garder une vie de couple, ils sont très attachants. Et il y a le couple, moi, que j'ai beaucoup aimé écrire, c'était un couple qu'on voit moins souvent, c'était de montrer une femme aussi qui peut avoir du mal à s'occuper de ses enfants et qu'en fait le père aussi le fasse très bien, et d'essayer de renverser un petit peu les clichés qu'on a l'habitude de voir et voir ce que ça nous fait ressentir en fait de voir cette mère qui est un petit peu détachée de son enfant.
Et puis après, ce couple qui a décidé de ne pas en avoir, de vivre sans, parce qu'ils sont très bien comme ça, et où tout va bien. C'est souvent des couples qui sont jugés aujourd'hui, où on dit souvent, t'as pas réussi à en avoir, non, c'est qu'on veut pas en avoir, tout simplement. Ça peut être un choix aussi.
Oui, et puis, je sais pas, justement, moi, on ressent ça quand on a des enfants, enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti, j'étais un peu embêtée pour ceux qui n'ont pas d'enfants, j'avais pas envie de leur imposer des choses, donc c'est vrai que le couple Anaïs et Pio, ils sont un peu pris là-dedans, ils voient bien que leurs amis font pas exprès de les saouler avec leurs enfants, mais ils sont pris dans leur vie quotidienne, et donc ils sont un peu en perdition. tradition et c'est assez poignant de les voir perdre un peu leurs amis, quoi.
Oui, c'est ça, c'est la douleur de voir leurs amis s'éloigner finalement et de ne plus avoir cette relation qu'ils avaient avant d'avoir leurs enfants et c'est beau à voir justement de voir comme l'amitié peut faire souffrir aussi finalement.
Oui, et puis et en fait, il n'y a plus de place pour parler avec ses amis. À un moment donné, on se décentre et on devient complètement omnubilé par le quotidien, la charge mentale, les enfants et en fait, on oublie que nos amis sont à côté et qu'on a peut-être des sujets intéressants à développer encore. C'est pour ça aussi que les enfants, on a choisi de les prendre assez petits, ce qui était difficile au tournage, mais parce que ça me semble important, parce que c'est vraiment quand ils sont bébés ou 3-4 ans, c'est tout le temps, quoi. C'est maman regarde, papa regarde. Quand on est avec des amis, on se fait interrompre sans arrêt. Et c'est ça qui a amené aussi de la comédie et en décalage avec ce couple qui n'en a pas et qui aimerait juste parler avec leurs amis, quoi.
Belle transition Elsa, justement, parce que je voulais te tirer mon chapeau, franchement, parce que tu as mis des plans, pour le coup, en boîte, avec énormément de monde devant l'écran, avec des enfants qui chahutent dans tous les sens. J'imagine, pour une metteuse en scène, ça peut être compliqué par moment, et tu as réussi à faire ça avec une finesse et sans que ça soit brouillon, pour nous, spectateurs à regarder. Donc franchement, bravo, parce que ça a dû être quand même compliqué par moment avec tout ce monde que tu avais devant l'écran.
On a beaucoup travaillé avec la chef opératrice Evgeny Alexandrova, qui est la chef opératrice de Noémie Merlan dans Les Femmes au balcon. Elle est très douée et donc on a beaucoup travaillé le découpage, la mise en scène, en essayant d'imaginer un peu des chorégraphies. Alors évidemment, c'était vachement compliqué, mais ça s'est fait, quoi. C'est rentré et du coup, c'était... On a essayé d'y mettre une mise en scène un peu appliquée pour pas aussi se faire dépasser par un côté trop brouillon. C'était le risque, en fait. C'est que sinon, tout le monde se parle les uns sur les autres. Voilà. Mais c'est vrai, c'est pas simple de tourner avec des enfants parce que, voilà, quand je disais action, il y a plein de fois où il criait action trois fois derrière. Enfin, c'est vraiment le bazar, mais ça s'est fait. Voilà.
Donc, des enfants, quoi.
Oui, oui. Donc, il y avait 8 acteurs et 6 enfants, 14 enfants presque, on pourrait dire.
C'est ça, parce que j'allais dire, alors, 8 grands-enfants et 6 petits.
C'est ça. Non, et ce qui est dur pour les acteurs aussi quand il y a des enfants, c'est que du coup, la priorité est mise sur les enfants parce qu'on commence par eux, qu'on doit tourner différents plans de différentes séquences des enfants en même temps. Donc, on arrête les acteurs, on leur dit cette scène, on la reprend tout à l'heure. Ça, c'est pas agréable pour eux, mais ça fait partie du travail et il faut s'adapter.
On va continuer à en parler, c'est notre gros coup de cœur ciné cette semaine, ça s'appelle Avec ou sans enfants, ça sort mercredi au cinéma. On va en parler avec ceux qui jouent le rôle de Pio et Anaïs, justement Adèle Gallois et...
Cyrus Shahidi.
Et puis on aura Joséphine Dray, Julien Pestel aussi, on va continuer à en parler, on va vous présenter deux des quatre couples justement qui seront avec nous dans une poignée de secondes juste après la bande-annonce. Merci Elsa en tout cas pour ce super film qu'on vous invite à découvrir. À très vite.
Merci beaucoup à vous, merci.
Bon alors du coup, à quoi on trinque ?
Ok, bon on va se marier.
Chez moi, en Italie.
Juste entre nous, comme avant.
C'est un mariage sans enfants.
Sarah ! Ils veulent pas des enfants !
Moi, une fête sans enfants, je vois pas l'intérêt.
Non mais ils sont trop mal, on peut pas les laisser avec la nounou là.
Surprise ! Ah ouais, donc tout le monde a ses bébés quoi.
On fait quoi ? On lâche la bombe direct ou on attend l'église ?
Ou sinon on leur dit pas. On les garde à tour de rôle. Si on dit rien, ils le sauront jamais.
Idée de merde.
Allez, on continue notre spécial avec ou sans enfants. Cyrus Shahidi est avec nous avec Adèle Gallois qui joue Pio et Anaïs. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Salut.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le couple sur les quatre qui, eux, ont décidé de ne pas avoir d'enfants, de ne pas s'embarrasser de ça et qui vont demander à leurs amis de venir à leur mariage sans leurs enfants. Mais voilà, c'est ce qu'on disait avec Elsa. Rien ne va se passer, évidemment, comme prévu. Mais on va surtout présenter un petit peu aussi vos personnages. On va commencer, on va être galant, par celui d'Anaïs, ma chère Adèle.
Eh bien, alors, rebonjour à tout le monde. Alors, Anaïs, Anaïs forme un couple assez moderne avec Pio et a effectivement décidé de ne pas avoir d'enfants. C'est une nana assez... assez dans son temps en fait, qui adore ses amis et qui a, je crois, pas vraiment envie que de voir le temps passer et voir que tout le monde avance un peu avec des enfants, etc. Je suis pas sûre que ça la ravit tant que ça. Donc voilà, mais elle les adore bien sûr et je pense qu'elle adore aussi les enfants, mais ceux des autres.
Et pas tout le temps. Le personnage de Pio.
Alors Pio, je pense que contrairement au personnage d'Anaïs, lui, il aime moins les enfants. Il aime pas les enfants de sa. Donc il y a Joséphine Dray qui joue ma sœur dans le film. Il aime même pas ses enfants. C'est neveu et nièce. Donc voilà.
Alors, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est le couple qui incarne un peu justement le fait de pas être dans le didacte aujourd'hui, qui assume clairement. Et ça, c'est ça que je trouve chouette justement dans votre couple et hyper intéressant à tous les deux, c'est d'afficher cette volonté volonté et voilà ce choix de vie finalement.
Ouais complètement. Je trouve que c'est un angle qui est pas souvent développé finalement au cinéma, et moi c'est un des trucs que j'ai vraiment aimé à la lecture du scénario et quand Elsa m'a proposé ce rôle, parce que on parle pas assez de cette non envie de parentalité, on la banalise pas tant que ça. Pire, j'ai l'impression qu'on lui jette un peu un sort.
Ah oui, parce qu'on dit souvent à un couple qui n'a pas d'enfant, vous n'avez pas réussi à en avoir. Bah non, c'est qu'on n'en veut pas tout simplement, mais on ne s'imagine pas justement ça.
Ouais, complètement. Il y a un peu un truc d'exclusion très rapide par rapport à ça. Et j'étais contente en fait d'avoir un film qui aborde un sujet comme ça, qui pourrait être très profond, mais avec une forme de légèreté pour dédramatiser un peu cette position en fait qui peut être parfois très mal comprise, très mal vue par la société, par sa famille. Bah là, ses proches, ses amis, etc.
Et quand Pio et Anaïs vont s'apercevoir qu'en fait, les trois couples sont venus avec leurs enfants, rien va ne se passer comme prévu et on va dire que ça n'a pas beaucoup leur plaire du tout même. Hein.
Ça part vraiment en freestyle quand les enfants sont finalement découverts. C'est un peu l'effet de la... Je sais pas.
Oui, parce qu'on le sait, on imagine bien qu'à un moment donné, voilà, parce qu'on attend tout ça, donc on sait qu'à un moment donné, ils vont être découverts.
Hein. C'est un peu l'effet de la. On sait qu'il y a une bombe sous la table et qu'à un moment donné, elle va exploser.
Et quand elle explosera, faut aller voir le film.
Exactement. Et du coup, nous, on a un peu les bernés, donc je trouve ça sympa de nous voir un peu complètement à l'ouest et penser que j'aime bien. Je vais pas en spoiler encore le film, mais nous, au début du film, on a l'impression que on est super heureux, on a retrouvé nos potes, ils sont venus sans leurs enfants, on les retrouve enfin, on est genre.
Oui, voilà. une désillusion charmante en fait, qui est pas si catastrophique, mais ça reste charmant.
Ce qui est assez drôle, c'est que dès le début du film, Elsa a bien planté le décor en montrant que les trois couples sont pas du tout sur la même planète que vous deux. C'est ça qui est aussi assez chouette finalement.
J'ai l'impression que les trois couples entre eux sont déjà pas sur la même planète.
Et ils sont tous des façons différentes.
Et nous encore moins quoi. Ouais, ce rapport aux enfants carrément.
Ils sont tous différents les uns des autres, et je pourrais rajouter que je trouve qu'on est tous des acteurs déjà de base. On est tous très différents les uns des autres en fait, tous. Donc je trouve que ça se ressent encore plus dans le film, et ça en même temps la bande marche et on y croit qu'ils soient potes en fait.
Alors, l'endroit où vous mariez, les décors sont magnifiques hein, franchement.
Sublime. Ouais. On était dans les Pouilles. Oh, est-ce que tu vas m'aider sur le nom à Tricase? C'était sublime. L'église était trop mignonne. Tout était vraiment. Bah, en même temps, elle est tournée vraiment 2 mois en Italie dans les Pouilles. Quel bonheur.
Vous avez bénéficié de décors absolument magnifiques. C'est vrai qu'accompagne le film.
Les décors et la bouffe aussi, c'était cool. On a eu trop de chance. On était pendant 6 semaines, je crois, en Italie, donc dans les Pouilles. Les week-ends, on est resté là-bas pour la plupart. On est parti découvrir la région, manger des plats incroyables, boire du bon vin. Il faisait encore beau en octobre alors qu'à Paris, il commençait à faire très gris. Non, c'était cool. On se baignait encore. Non, on a eu beaucoup de chance.
Quelle a été votre scène préférée ou celle où vous avez peut-être le plus galéré? Parce que ce qu'on disait avec Elsa il y a un instant, c'est que tourner des scènes et des plans avec autant de monde devant la caméra, avec autant de brouhaha, d'enfants aussi. Et vous, finalement, vous avez eu moins de scènes avec tous ces enfants une fois que le mariage fait.
J'en ai une, mais peut-être c'est pas. Vas-y. Moi, j'ai celle dans le bain parce que c'était la config. En fait, on a une scène dans un bain où on
s'est. Que le bain se vidait.
C'est ça, c'est ça en fait. En fait, c'était très drôle parce que du coup, on est parti, on a tourné avec une équipe italienne. Et faut savoir que parfois les Italiens, franchement, ils sont un peu à l'arrache. Et je fais pas de généralité, hein, mais en tout cas, nous, nos deux accessoiristes sur le film, on avait déjà, ils étaient physiquement incroyables. On avait vraiment l'impression que c'était deux reprises de justice qui avaient kidnappé les vrais accessoiristes et ils ont enchaîné connerie sur connerie. Et genre, il y a un truc de base que tu sais que quand tu fais un film, tu mets une baignoire et que c'est pas une vraie baignoire qui devrait pas être là, tu mets du gaffeur pour pas que l'eau parte en dessous, et eux ils ont juste mis le vieux bouchon et ça coulait et du coup nous quand on bougeait dans un truc parfois ça bougeait le truc et du coup ça inondait la pièce et on était donc à poil dans cette eau qui refroidissait et l'eau qui coulait, et ils nous disaient attendez on doit arrêter et nous on était devant 30 personnes nues donc c'était un peu compliqué quoi.
Et à la fois c'était une scène d'une tendresse infinie, on avait l'impression que vous vous retrouviez après la guerre quoi tous les deux.
Oui, bah c'est vrai que cette scène elle est importante pour faire déjà pour faire vraiment exister le couple en lui-même, et aussi parce que on crée cette complicité et on entend qu'on est à des années-lumière de se dire qu'en fait il est en train de se passer un truc derrière notre dos qui est énorme et qui, bon là j'allais spoiler donc je le dirai pas, mais voilà.
Ouais, moi c'est marrant parce que vous parlez de tendresse, mais c'est marrant parce que la scène a été coupée comme ça, mais la scène allait un peu plus loin normalement, et du coup on aurait, je pense, 10 mois, tu sais, quand je me mettais comme ça. Enfin, il y avait vraiment, la scène a été coupée, et du coup elle fait tendre, mais avant elle était moins tendre. Elle était un peu plus olé olé.
Ok, elle a été plus adaptée pour les enfants alors.
Complètement le contraire. Là, enfin là aujourd'hui, elle est plus adaptée pour les enfants.
Voilà. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller voir le film du coup mercredi en salle avec ou sans enfants. Et ça, c'est bien.
Oh, j'adore cette conclusion. Je sais pas si c'était ta conclusion, mais je trouve que c'est très bien dit.
Ouais. Bah foncez voir le film. Franchement, il
avec
est.
Ou sans enfants, c'est exactement cool. Ça. Ouais.
Exactement.
Je te le volerai, c'est quoi. Je crois
mais
que.
J'espère bien que tu vas me le voler. Bon, Adèle Cyrus, merci d'avoir été avec nous pour parler un peu du couple. On va continuer avec Joséphine Dry et Julien Pestel dans quelques instants. On continue notre spécial avec ou sans enfants, le film à ne pas manquer, mercredi au cinéma. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci. Je pense que c'est important de rappeler la règle des 4 C. Pas de conseils.
Alors attention les mamans, hein.
Pas de critiques. Tu sers à rien, merde. Pas de comparaison.
Bah il fera pas l'ENA celui-là, hein.
Que des compliments.
Je lui donne un bain, tu gueules, je lui donne pas un bain, tu gueules. En fait j'ai compris, t'es là pour gueuler en fait.
Les gars, y'a Pio et Anaïs qui arrivent là, planquez tout.
Qui planque 6 gosses pendant tout un mariage? Des psychopathes.
Allez, on continue notre spécial avec ou sans enfants. On va même terminer cette spéciale en beauté avec Joséphine Dray et Julien Pestel qui nous ont rejoints tous les deux. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Avec les rôles de Sarah et de Swan qu'on va découvrir. Alors, c'est le couple, dans ces 4 couples, qui est peut-être le plus proche de ses enfants, qui sont les plus maternels et paternels avec leurs enfants, peut-être, ces deux-là.
Bah oui, c'est vrai aussi. On a un couple qui incarne vraiment le côté vraiment famille, au grand sens du terme, et aussi fusion. Il y a un truc, on est un couple assez fusionnel. Et donc, ça va aussi avec l'idée d'être fusionnel avec nos enfants. Alors, même si évidemment, moi, mon personnage est épuisé par la vie accablante, quand même, de ce que c'est que d'être une maman concernée. Justement.
Oui, parce qu'il faut dire une grossesse du deuxième, mais du troisième en même temps.
C'est ça, les jumeaux. Voilà, tout en favorisant, tout en valorisant vraiment la famille. Donc oui, c'est être proche de ses enfants et de son mari, je pense que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour ce couple, quoi.
C'est vrai qu'elle est. Elle est assez fatiguée, Sarah, parce que...
On m'avait mis des cernes en maquillage.
Mon personnage, même s'il aime beaucoup ses enfants et qui est très investi dans la vie de famille, ouais, est parfois un peu maladroit. Il fait les choses un peu à côté, ça fait peut-être un quatrième
enfant, ouais.
On va dire en plus il a du mal à se repérer dans l'espace, mais ça vous verrez en regardant le film, on peut dire qu'il nous a fait beaucoup rire.
C'est très bien dit.
C'est très drôle, il y a des scènes sur ça très drôles.
Alors il faut dire que... C'est à cause de vous ou grâce à vous que ces 6 enfants vont se retrouver un peu au cœur de tout ce qui va se passer dans le film et surtout qu'ils vont se retrouver au mariage malgré eux.
Justement, on est concernés, ils sont malades, on peut pas laisser les tout petits bébés malades. Ça fait deux des bons parents sur le moment quand même, non?
Oui, je pense que c'est surtout une excuse. C'est une très bonne excuse. Ils sont un peu contents d'être malades pour pouvoir les prendre avec eux.
Moi je l'ai pas joué comme ça, tu vois. C'est drôle, dans le jeu, je l'ai vraiment joué comme terrible tuile, mais justement en tant que maman et en tant que couple de parents très concernés, c'était une évidence qu'on ne peut pas laisser ses enfants dans des situations de souffrance, mais je l'ai joué très premier degré, pas genre j'ai enfin l'excuse parfaite pour les prendre.
Moi ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand il prend la température. Ah oui. Swan, et qu'il y en a un qui a 38, 39, hein, quasiment 40, et puis il prend l'autre 34, mais ça percute pas tout de suite.
Oui, mais running,
il a toujours un temps de retard, Swan.
Et le running gag de la serviette, parce qu'en fait, il est jamais au bon endroit, il est toujours dans la serviette. Ouais. On va pas spoiler, mais c'est un running gag, ou toute chose.
Ouais. C'est ça qui est drôle, vous avez dû vous marrer quand même tous les deux.
Oui, d'ailleurs, il y a une scène qui a été coupée, qui était encore sur ce running gag de « il est pas au bon endroit », j'en profite parce qu'on la verra jamais, la scène, elle l'a même pas mis dans le bêtisier. Voilà, où il se trompe un peu d'endroit, sans en dire trop, sur la plage à la fin, et c'est une scène où on a beaucoup rigolé, justement, pendant le tournage de cette scène, qu'on verra jamais.
Oui, on s'entend bien, en plus, avec Joséphine, c'est pas le premier film ou le premier projet qu'on fait ensemble, on a fait de la série, du long, du court-métrage, on avait l'habitude de travailler ensemble, on s'est trouvé très vite, notre rythmique de jeu, on la connaît, et on a encore une fois pris beaucoup de plaisir, surtout dans un décor idyllique au sud de l'Italie pendant 5 semaines. Ouais. Il y avait la mer, il faisait beau, c'était très agréable.
Est-ce que c'est compliqué justement d'être nombreux au niveau comédien des fois devant la caméra quand on fait une comédie? Est-ce que c'est plus pointu, plus difficile que quand vous tournez par exemple des rôles plus dramatiques tous les deux?
Ça peut l'être parfois pour laisser l'espace et la bonne zone parfois d'improvisation pour pas trop tirer la couverture à soi, parce que l'effet de bande c'est aussi être vachement dans l'écoute pour avoir un rebond permanent et en même temps que chacun puisse exister. Après on a été vachement cadré par la réalisatrice aussi qui nous dit il y avait des axes avec genre là faudra pas que tu parles à partir de là parce que moi je veux favoriser ça et pour que le montage fonctionne à la fin. Donc c'est aussi être guidé par la réalisatrice, sinon c'est la fête au village, tout le monde ça devient le bordel. Et donc on a été bien cadré quand même.
On a fait beaucoup de lectures en amont aussi, on avait lu le scénario en groupe bien avant, justement pour qu'on soit tous d'accord, que chacun ait son rôle à défendre, qu'on s'empiète pas, etc., que chacun y trouve son compte. Donc ça nous a permis de pas perdre trop de temps sur le plateau. On était très disciplinés finalement.
Oui, disciplinés dans notre bordel, c'est vrai. Et disciplinés avec Ryan Bensetti dans l'eau, c'est pas gagné, je vous le dis.
Bizarrement, je sais pas pourquoi, je suis même pas étonné.
C'est vrai. Mais il est en même temps tellement fédérateur, c'est ça qui est génial aussi. C'est que Ryan, c'est aussi un maillon et un lien de un lien. C'est, il incarne vraiment le lien. Et dans le groupe, il a aussi beaucoup joué ce rôle aussi de fédérateur. C'est marrant.
Oui, parce que c'est le groupe, c'est le couple de jeunes hein, qui sont un peu au bout du rouleau tous les deux après avoir eu leur premier enfant et ils vont incarner ça de manière assez sympathique bien sûr aussi. Vous êtes déjà retrouvé vous à titre personnel au cœur d'un moment où par exemple, les enfants n'étaient pas les bienvenus. Ou, est-ce que vous avez eu ça, vous, déjà dans vos vies?
Non, pas du tout.
Ouais, quand je me suis marié il y a quelques années, on avait fait un mariage sans enfants, justement.
Ouais. Ah, oui. Et donc, tu avais l'expérience déjà, Julien.
Il n'y avait aucun enfant, sauf la nôtre.
Ah, c'est vrai?
Mais qu'on n'a pas trop montré, on l'a laissé cacher.
C'est rigolo, comme un chien, on l'a enfermé dans une pièce.
Et tu sais que maintenant, il y a des nounous qui se spécialisent justement c'est pour génial. Garder les enfants pendant les mariages. Il y a même des sociétés qui se sont montées comme ça.
Bah, c'est très bien. Je trouve ça très juste et très moderne et très actuel. Et on sait très bien qu'à la fin, tout le monde va être gagnant.
Ça
les enfants ne vont pas s'embêter.
C'est pas arrivé en Italie encore, cette idée de nounou pour les mariages.
Bon, vos projets à tous les deux, Julien, on va te voir bientôt dans Flashback sur TF1 avec Michael Youn, avec Constance Gay. Une série incroyable qui va nous faire remonter dans le temps. C'est carrément génial. Moi, quand j'ai eu la chance de la voir au festival de La Rochelle. Et franchement, elle est top, quoi. J'ai hâte de voir la suite.
Ouais, c'est chouette. Moi, j'ai vu les deux premiers épisodes. J'ai pas trop vu la suite, mais j'ai très très hâte que le public découvre cette série parce que au-delà d'être une énième série policière pour la télévision, là, c'est une comédie vraiment drôle. Il y a du policier, il y a du fantastique, il y a de l'action. Enfin, ça réunit plein de choses et je suis très fier d'être sur ce projet.
Et tu reviendras nous parler de ton bon rôle en plus à ce moment-là. C'est ça qui est bien.
Et puis on retrouvera aussi Joséphine et moi-même normalement au printemps dans le premier long métrage de Vladimir Rodionov. C'est une exclue pour Chute on écoute la télé.
Ben oui, c'est vrai.
Avec Romain Lancry, Elodie Fontan, Chérine Boutella.
Oh là là, le cast.
Ouais, c'est un beau cast. Et nous surtout. Surtout, j'aime bien le surtout. Genre la même qui annule tous les autres. Bon, ok, ok.
C'est pas encore officiel, mais ça va se passer dans pas très longtemps.
Bon, Joséphine, il va y avoir aussi ta série pour Teva, qui va arriver bientôt.
Ouais, Intérimaire, qui est ma première série en tant que créatrice, interprète principale, j'ai showrunneuse, j'ai tout fait.
Est-ce que t'as fait un jeu de mots avec intérimaire, mère comme une mère de famille?
Pas du tout. Elle a pas d'enfant, malheureusement, ce personnage, elle aimerait bien. C'est intérim, R-A-I-R, parce que.
Non, les coiffeuses.
Pas les coiffeurs. On a pas mis le H, c'est juste R, parce que, justement, c'est tout, il y a jamais aucun des petits boulots qu'elle fait qui va se passer de la meilleure manière qui soit. Ce qui fait qu'il y a 50 épisodes avec 50 métiers différents.
Eh ben, tu viendras aussi nous en parler au moment de la diffusion sur Teva. Toulouse-Lautrec?
Non, pas Toulouse-Lautrec, pas la saison.
Fini, et donc pas de saison 3?
Non, je crois que les deux premières saisons vont être disponibles sur Disney+, mais pas de saison 3. En revanche, prochainement, il va y avoir la diffusion d'un épisode du Nounou dans lequel je suis en guest avec Frédéric Diffenthal.
Avec Boudère.
Très sympa l'épisode. Et aussi un unitaire pour France 2 qui s'appelle Haute Saison. Ça va être prochainement aussi. Je partage l'affiche notamment avec Vinnie Dargaud. Voilà.
Jean-François Quiré.
J'adore qu'on embrasse tous, qu'on embrasse partout, c'est horrible. Mais en revanche, voilà, pour la télé, c'est ça qui est prochainement annoncé hein, pour moi, voilà.
Bon, c'est génial. Merci en tout cas d'avoir terminé cette spéciale avec ou sans enfants avec nous. En tout cas, vous les aviez pas amenés, c'est sûr, aujourd'hui. Joséphine, bientôt de retour dans Chute, on écoute la télé pour Intérimaire sur Teva. Et puis Julien reviendra pour nous parler évidemment de son rôle. Ça sera dans Flashback pour TF1 très bientôt. Merci à tous les deux et à très vite.
Au revoir.
Au revoir.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Ce sera une grande spéciale à bicyclette. Le film événement qui sort au cinéma. Mathias Mlekuz et Philippe Rebaud seront nos invités. On parlera également du film Bonjour l'asile avec Judith Davis. Et on parlera également du grand retour de Clem sur TF1 ou encore de la mini-série Nismet sur Arte.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.